prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème, les rêves et les songes. Première partie.
S'engager sur peut-être un ou deux dimanches, deux ou trois dimanches, sur un sujet sur lequel j'ai été souvent interpellé en tant que pasteur, des questions qui sont posées, qui reviennent de temps à autre. Alors c'est un message que j'ai fait il y a près d'une vingtaine d'années, mais je voudrais le partager avec vous parce que je pense que ça peut être aussi au fond de nos cœurs, cette interrogation. Et c'est le sujet, c'est le rêve et les songes. C'est vrai que c'est assez un peu particulier, hein, mais vous allez voir, on va découvrir certaines choses. Alors, simplement, à titre anecdotique, eh bien, j'ai fait un rêve, et vous voudrez bien savoir ce que j'ai rêvé. J'ai rêvé que j'ai rêvé. Ah, ça vous en donne pas plus, hein. Ça ne vous dit pas plus de choses. Alors on va justement prendre la parole de Dieu à témoin. Et on va voir ce qu'elle nous enseigne sur les rêves. Parce que tout le monde rêve. Je ne sais pas, vous avez peut-être fait un rêve cette nuit. Moi j'ai rêvé qu'il y avait du vent. Là, j'ai pas dû me tromper beaucoup. Qu'il y avait de la tempête. Mais attendez. On y reviendra parce qu'il y a les rêves que l'on pourrait peut-être qualifier de naturel, et puis les rêves surnaturels. Alors, qu'est-ce que l'on peut tirer de tout ça? Et on va faire une première lecture. Une première lecture dans le livre de Jérémie. Voilà. Livre de Jérémie, chapitre 23, verset 25. Alors ça commence de cette manière, parce que c'est quand même très instructif, ce que nous enseigne la parole, et elle nous enseigne l'équilibre, elle nous enseigne le discernement, elle nous enseigne la modération, elle nous enseigne la vie de l'esprit, mais une bonne interprétation, dans la vérité, dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu. Jérémie 23, verset 25. J'ai entendu ce que disent les prophètes, qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant « J'ai eu un songe, j'ai eu un songe. » Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge? Prophétiser la tromperie de leur cœur. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux au prophète, qui se dérobe mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Voilà la première lecture, une plus courte si vous voulez bien. Nous allons la faire dans Ecclésiaste chapitre 5 et deux versets. Ecclésiaste chapitre 5 verset 2. C'est intéressant de prendre en compte ce qui nous est dit. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Verset 6 maintenant. Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Crains Dieu. Voilà. Et nous allons maintenant, eh bien, laisser la parole nous enseigner. Dans ce premier volet, nous allons voir un peu l'aspect des rêves et des songes qui viennent naturellement. Et ensuite, nous verrons plus tard, lorsque authentiquement le Seigneur, eh bien, s'adresse par ses moyens. Avons-nous déjà compté combien de fois la Bible fait référence aux songes et aux rêves et à leurs dérivés? Il est question de songeurs, il est question de rêveries, il est question de rêveurs. On a une petite expression chez nous, on dit « il est dans la lune ». Voilà. Mais le résultat, c'est que la Bible nous en parle plus de 55 fois où il y a des histoires aussi longues que celles que nous avons lues dans l'histoire de Jérémie, hein, dans ce qui nous est rapporté par Jérémie. Si la parole de Dieu tantôt met en évidence le songe, songe, rêve, on verra les différences, hein, il y a quand même quelque chose, comme un moyen surnaturel de parler aux hommes, elle n'en dénonce pas moins les extravagances, comme étant le produit, comme nous l'avons lu dans Ecclésiaste, le produit de la multitude de nos préoccupations ou de nos occupations, et elle nous dit que c'est une vanité. On n'enseigne pas cela à l'Église. Au contraire, on enseigne de partir un petit peu quelquefois. Vous avez un songe, vous avez un rêve, c'est formidable, Dieu parle, attendez. Hein. Attendez, parce que celui qui donne un songe ou un rêve à quelqu'un d'autre, s'il le donne pour lui-même, c'est sa responsabilité, qu'il le vive pour lui-même, d'accord. Mais combien de fois avons-nous, avec ce genre d'extravagance, envoyé les autres dans le mur? J'ai pensé, j'ai rêvé, je t'ai vu. Et puis on s'aperçoit que les résultats, eh ben ils sont pas beaux. Hein. Et jusqu'à la perte du salut de certains. J'ose le dire. Hein. Dans des temps où l'homme fait une grande place à l'émotion, à chercher à percer certains mystères pour comprendre les lois cachées de la vie, alors y compris la vie spirituelle, la volonté de Dieu, les inspirations de Dieu, les conduites de Dieu, il apparaît important de cerner davantage la question du rêve. Oui. La Bible évoque le rêve surnaturel, et je suis tout à fait d'accord, on va rien retirer de la parole, mais avant tout, il importe de saisir que le rêve est un phénomène universel et naturel. Ça vous arrive de rêver? On a tous rêvé et on a tous cauchemardé. Ça, c'est l'autre face de la médaille, hein, naturellement. Alors, sans chercher plus loin, on se dit, ben, ça vient de Dieu quand on est chrétien. Tout chrétien attaché à la parole, attaché à la vie de l'esprit, à la marche par le Saint-Esprit, ne doit pas se prendre pour autant, pour Jacob, vous connaissez Jacob, on en reparlera dans la deuxième partie, pour Joseph et encore autre Salomon à Gabaon, hein, où Dieu le visite et lui dit en songe, « Demande tout ce que tu voudras, je te l'accorderai. J'ai rêvé que je pouvais tout avoir. » C'est formidable, là, des songes comme ça, hein, dont les songes de ces hommes que je viens de citer ont été mémorables, puisqu'ils sont inscrits, contenus dans notre Bible. Alors, afin d'éviter toute interprétation fantaisiste de ce qu'il nous arrive, parfois de rêver, il nous faut absolument examiner quelques généralités qui vont nous servir de guide dans ce monde tellement étrange. Le conscient, ce que je vis dans la journée, ce que je suis en train de voir, la réalité, le réel, c'est une chose. Mais la nuit, normalement on dort. Mais il y a des choses qui se passent la nuit. Eh oui. Et elles se passent à l'intérieur de nous-mêmes. C'est un monde étrange, il faut bien le reconnaître. Alors, la grande question reste la suivante, celle-ci, sachant cela, et on va suivre ce fil rouge tout au long de notre méditation, il nous est rappelé, les songes naissent de la multitude des occupations, et il y a beaucoup de vanité dans les rêves, nombreux. Il y a des gens qui rêvent beaucoup, il y en a qui rêvent un peu moins. C'est-à-dire que discerner ce qui vient de nous-mêmes, et là, on va lui donner un mot, c'est notre imagination. Et ce qui vient de Dieu, où là, Dieu va nous parler d'une manière tout à fait particulière. Et il faut savoir encore le reconnaître. Parce que quelquefois, quand ça vient de nous, on dit que c'est Dieu. Et quand c'est Dieu qui nous parle, on dit, oh ben non, ça n'a pas trop d'importance. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et que vous connaissez la suite. Et l'on n'y prend pas garde. C'est bien dommage que ça marche à l'envers, hein, quelquefois. Donc c'est une question d'équilibre spirituel. C'est une question de discernement, c'est une question de perspicacité, c'est une question de, finalement, de contact avec le Seigneur, et puis de bonne connaissance de la parole. Parce que nous sommes dans des temps, dans nos milieux évangéliques, protestants évangéliques et apparentés, où ça s'en va un peu dans tous les sens, hein, il faut bien quand même le reconnaître. Hein. On a entendu, on a vu, on vit des choses, pétri un petit peu avec de l'émotion, de la sensation, de l'extraordinaire. Alors là, c'est vrai que vous ressortez du culte, vous dites, oh là là, on a passé un culte formidable, j'ai ressenti. Mais attendez, on n'est pas là pour ressentir, on est là pour vivre. On est là pour vivre quelque chose dans notre communion avec le Seigneur et prendre sa parole. Parce qu'on ne va jamais se tromper en restant sur sa parole d'une manière équilibrée. Alors peut-être que vous allez dire, mais Alain, il n'est pas marrant parce qu'il nous dit toujours des choses comme ça. Eh bien oui, parce que moi je tiens à ce que l'Église reste équilibrée, qu'elle reste unie, et puis qu'elle reste dans la paix. Et vous comprenez, le contraire, ça se produit. Hein. Enfin, tant que je serai là, en tous les cas. Alors, c'est l'expérience qui me fait parler aussi. Je crois qu'il faut bien comprendre, il faut le dire tout de suite, les révélations divines, par le truchement des rêves et des songes, sont assez rares, assez rares, dans la vie spirituelle, et dans les vies spirituelles, même sortant de l'ordinaire. J'ai cité trois hommes tout à l'heure, Salomon, j'ai cité Jacob, et puis un autre. Je me dis, c'était pas tous les soirs qu'ils avaient des songes, c'était pas tous les jours. L'apôtre Paul, qui est un homme extraordinaire dans la vie de l'esprit, n'avait pas tous les matins se réveiller en disant « Voilà, j'ai reçu un songe, j'ai reçu un rêve pour vous, hein, pour les Corinthiens, les Philippiens, etc. etc. » Ça se passe pas comme ça. Hein. À en croire certains, c'est tous les matins quand ils se réveillent qu'ils disent « Voilà, j'ai rêvé, j'ai songé. » Et puis, quand ils reviennent à l'église, ils disent « Voilà, j'ai quelque chose pour toi. Hein. » Alors, toutes les semaines, tous les jours, si c'est pas deux fois par jour... Alors on téléphone, on dit « voilà, tiens, j'ai eu ceci et cela ». Alors si vous avez des gens qui sont fragilisés, qui sont déjà dans les problèmes, des préoccupations, je peux vous dire que vous allez les arranger. Le Seigneur m'a montré que tu es en train tu vas être jugé. Tu es malade, mais si tu... voilà, ceci et cela. Le Seigneur me l'a montré, je l'ai rêvé. Bon, ouais. Alors, commençons par le pouvoir de l'imagination. Le prophète Ésaïe fait cette citation qui en dit long sur... ce que je nommerais la subjectivité humaine. Eh oui. Il y a l'objectivité dans les faits, et il y a la subjectivité, ce que l'on ressent, notre âme. Dans Ésaïe, donc, 29, verset 8, écoutez. « Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide, ça c'est la réalité, comme celui qui a soif rêve, qu'il boit, puis s'éveille, et languissant. » Donc, là, on a tout de suite les résultats, hein, on est clair. L'attente de quelque chose, et on a tous quelque chose à attendre dans notre vie, on a tellement à attendre. Le besoin, un désir non contenté, est souvent à l'origine de ce que nous croyons être une réalité. Nous avons tous des espoirs, des espérances. Nous sommes pétris d'espoir et d'espérance. Mais il faut que ça reste dans le cadre de la volonté de Dieu et de la pensée de Dieu. Mais ce n'est qu'un rêve. Je peux rêver de tellement de choses qui me seraient tellement agréables, mais je ne peux que les rêver. Parce qu'elles ne se réaliseront pas, à moins que, je ne sais pas, mais voilà. Parce que j'ai le besoin, parce que ça me porte vers cela. Et c'est une sorte de mirage qui échappe, et on comprend que quelquefois, dans le peuple de Dieu, il y a des déconvenues, il y a des où le chrétien est rassis quelque part, excusez-moi l'expression, où il est déçu, désillusionné, même quelquefois de Dieu. Mais c'est pas Dieu qui l'a désillusionné. Déçu, en disant, mais j'avais espéré, j'avais ceci, j'avais cela, j'ai entendu ceci et cela. À un moment donné, on s'aperçoit que le peuple de Dieu, il est languissant, il est fatigué, il n'en peut plus. À tel point que dans certains milieux, je ne parle pas ici, mais dans certains milieux, ça fuse de tous les côtés, c'est qu'il y a des gens qui finissent, des chrétiens qui finissent, ils disent maintenant, moi, ne parlez plus des charismes. Et ils vont dans des communautés ou non charismatiques, où la parole néanmoins est quand même prêchée. Alors, il faut faire attention à cela. Il faut être vigilant. Alors, ce n'est qu'un rêve, donc mirage. Ici, le phénomène décrit par le prophète est physique. L'homme a faim, il a soif. Quand il se réveille, ben, il a toujours faim, et il a toujours soif parce que c'était dans son imagination, le manger et le boire. Mais de là à transposer nos espérances morales et spirituelles, c'est-à-dire les rêver. On va même beaucoup plus loin dans cette pseudo-doctrine du New Age, à visualiser les choses. Alors, je voudrais pas rentrer dans les détails parce que je voudrais pas vous effrayer, hein. Mais ça n'a rien de biblique, et ça n'a rien d'évangélique, et ça n'a rien inspiré par le Saint-Esprit. À les rêver et à les interpréter comme autant de réponses surnaturelles et divines, et nombre de chrétiens sincères et fervents franchissent le pas, abusés par leur ignorance, d'une part, sur les mécanismes des choses, et on va en parler, et d'autre part, sur les principes qui régissent la parole de Dieu. Et c'est ça ce que je fais ce matin. On va poser les principes de la parole de Dieu pour juger ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est lumière et ce qui est ténèbres. Parce qu'il faut rester les pieds sur terre. Un chrétien, et je le rappelle, vous le savez tous, un chrétien c'est quelqu'un qui a le cœur dans le ciel, mais les pieds sur la terre, on est d'accord? Enfin, moi ils sont sur l'estrade pour l'instant, mais enfin je suis quand même sur la terre. Voilà les choses. Si nos préoccupations, qui peuvent devenir chez les enfants de Dieu des obsessions, on veut tellement quelque chose, on attend tellement quelque chose, ça peut devenir obsessionnel. Donc, je resterai sur le mot préoccupation parce que c'est celui qui est pris finalement, et bien là, dans le vocabulaire d'Ecclésiaste. Hein. Si nos préoccupations enfantent beaucoup d'espérance, attendons-nous non pas à recevoir des révélations transcendantes, extraordinaires, surnaturelles, mais de voir Dieu plutôt au préalable, à l'exaucement ou de l'exaucement, nous guérir d'une imagination excessive. Et ça commence par là. De nous guérir d'abord, de nous envoler, d'une imagination qui n'a plus de limite, une imagination qui se nourrit de soucis le jour et se poursuit en rêve la nuit. Parce que ça se poursuit comme cela. Et qui ne fait que confirmer ce que l'Écriture nous dit, et que je rappelle encore une fois, les rêves naissent de la multitude des préoccupations. On est quelquefois, après une journée harassante, ou des soucis familiaux ou autres, on est pris, et puis on va s'endormir, mais on dort mal, et on fait toutes sortes de choses qui nous encombrent. Et on n'arrive pas à trouver le repos, vous comprenez? On fait du surmenage, on stresse. Et on se réveille le lendemain matin, c'est encore pire, on est encore plus fatigué. Et on va encore générer encore des préoccupations, des inquiétudes et des soucis. Et la nuit suivante, on va encore... Oh là là, c'est terrible. Donc c'est pour ça que le Seigneur veut nous guérir de notre imagination excessive. Excusez-moi, vous m'en voudrez pas. Il paraît que la gente féminine est particulièrement... Non ? C'est pas moi qui ai donné la suite. Non, mais c'est vrai, regardez les petites filles. Hein. Moi, j'ai eu des filles et puis une petite fille. qu'est-ce qu'elle rêve? C'est vrai, hein? Les messieurs sont... C'est pas pareil. Il y a dans la nature, dans le caractère masculin, certainement une marque d'objectivité et dans la féminité de la subjectivité. C'est comme ça, hein? C'est bien. C'est bien parce qu'on cède l'un et l'autre, hein? Et je dis que c'est un équilibre. Je ne parle pas négativement, au contraire. C'est une grâce de Dieu. Ben, je le comprends comme ça, en tous les cas. Alors, que dire si les rêves naissent de la multitude des occupations? Que dire des angoisses? Que dire des anxiétés et d'un état dépressif, quelquefois, qui peuvent atteindre les personnes? Dieu veut nous guérir de notre imagination. Et ça va très très loin. Essayons maintenant de différencier le naturel du spirituel, parce que, hein, vous verrez, on parlera de paille et de froment tout à l'heure. Connaissez la citation? On y reviendra. Hein. Donc, faire le distinguo entre ce qui est naturel, ce qui est humain, charnel, et puis le spirituel, ce qui vient de la chair et ce qui vient de l'esprit, et cette leçon acquise, eh bien nous y verrons certainement déjà plus clair, parce qu'il faut déblayer le terrain comme il faut. Hein. Le Créateur a donné à l'homme une constitution, vous le retiendrez ou pas, tripartite, c'est-à-dire en trois parties. Tripartite, c'est-à-dire un corps, une âme et un esprit. Alors nous allons laisser de côté la dimension bien connue du corps physique, bien qu'il ait son rôle à jouer dans ce que nous sommes en train de méditer. Celle qui nous intéresse comme intervenant dans le rêve, c'est celle qu'on appelle, la dimension que l'on appelle l'âme. Vous savez où est votre âme? C'est un personnel. Enfin, c'est personnel, mais je veux dire, on ne sait pas où tellement ça se situe. Hein, c'est en grec, psyché. Ce qui a donné dans notre vocabulaire, dans notre langue, eh bien, psychique. Voilà. L'âme humaine possède plusieurs facultés propres. Alors, on va les passer en revue parce qu'il faut bien comprendre les choses. C'est pas de la psychologie que je suis en train de faire. Hein. Attention. C'est de bien étudier comment nous sommes, comment le Seigneur nous a fait et ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Toujours pour nous bénir, pour nous faire du bien, pour que nous restions des hommes qui, bien là, soyons ses disciples, ses ambassadeurs et ses témoins, et non pas des gens qui partent un peu dans tous les sens. Parce qu'à ce moment-là, nous le déshonorons, nous desservons la cause de l'Évangile. Alors, l'âme humaine possède donc plusieurs facultés. D'abord, la conscience nous donne le sentiment du bien et du mal. L'intelligence nous sert à comprendre, analyser, à comprendre. La volonté nous permet de nous déterminer dans nos choix. Je veux ou je ne veux pas. La volonté, on pourrait dire beaucoup de choses, hein, naturellement. La mémoire conserve le souvenir. On en a parlé dernièrement. La raison permet de juger entre le juste et le bon, le faux et le mauvais, et enfin, l'imagination. Puisque c'est au cœur de notre méditation, l'imagination est la faculté qui nous ouvre à l'aide d'images intérieures. Parce que le rêve, c'est ça, hein? À l'aide d'images, donc, au fond de nous-mêmes, un monde qui n'existe pas, ou qui n'existe pas encore, ou qui n'existera jamais. Le pouvoir de l'image. Alors, on est dans un monde, hein, de pouvoir de l'image. Et il nous est dit que dans l'Apocalypse, il y aura aussi la domination de l'image. Mais l'image, elle est déjà là. Hein. Moi, je pense qu'à travers tous les hommes de tous les temps, ils avaient déjà la télévision à l'intérieur d'eux-mêmes, façon de parler. Mais l'image, en quelque sorte, hein. L'imagination, hein, ça vient du même mot, naturellement. Ce monde, et on a un qualificatif aujourd'hui, c'est le mot virtuel, et attention, hein, combien nous sommes mis véritablement en garde contre le virtuel. Parce que nous allons vers une humanité qui va plus vite dans la réalité, hein. On est propulsé, déjà nos tout-petits, ils sont déjà très forts hein, dans ce domaine. Alors ils avaient déjà, de près la nature, tout simplement cette tendance, alors maintenant on va faciliter, et ça va être certainement quelque chose d'ahurissant. Donc ce monde nous permet dans l'imaginaire de nous représenter des êtres, des choses, des idées, des situations, qui vont des plus crédibles aux plus farfelus. Qui de nous, quelquefois, le matin, en se réveillant, on se souvient? Quelquefois. Et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai été rêvé? On se dit, mais alors c'est possible que quand on s'entend bien, on le dit à lui ou à elle. On dit, mais hé, qu'est-ce que t'as été pensé? Oui, c'est ça. Hein. C'est bien d'avoir du vis-à-vis, hein, et je crois que c'est pas toujours facile de vivre seul parce qu'on manque de vis-à-vis. Et quelquefois, quand on est à deux, eh bien, ça permet d'évacuer aussi. Hein. Puis quelqu'un nous dit, bon, non, ça va pas, hein, voilà. L'imagination est créatrice. Elle se développe davantage chez certains tempéraments, les artistes. Eh oui, travail de la nuit aussi, hein. Les inventeurs, les promoteurs de l'avenir. Hein. Elle est aussi destructrice. Finalement, cette imagination. L'imagination est capable, elle est comparable à un bateau sur l'océan. Si elle possède le gouvernail de la raison, si elle est lestée finalement de l'intelligence et puis tout le reste que je viens de citer, alors à ce moment-là, le bateau va évoluer dans la bonne direction et sera finalement, eh bien, atteindra le port. Et nous, ce sera la même chose. Nous irons dans la bonne direction et ce sera profitable. Toutefois, si cette imagination est dépourvue des qualités mentionnées, elle va aller à la dérive. Et combien parfois, et ça c'est triste dans le monde chrétien de voir des gens qui sont complètement en dérive et en délire dans certaines choses. Non, c'est pas normal. Le Seigneur nous donne un exemple d'équilibre parfait. Vous êtes d'accord? Ah ouais. Et comment peut-on être confronté quelquefois avec des gens qui font n'importe quoi, qui marchent les pieds au plafond? Enfin, je ne sais pas comment ils font, moi, j'y arrive pas. Et puis, qui disent n'importe quoi, qui racontent n'importe quoi. Alors, non, moi je pense qu'il faut, faire entendre notre voix, et notre voix, c'est l'enseignement de la parole. Parce que la parole est claire dans ce domaine. Alors c'est vrai que les gens de l'extérieur, ils nous disent, mais regardez les chrétiens comment ils se comportent, regardez un peu le témoignage qu'ils rendent. Et ça fait un mal terrible cela. Est-ce qu'on a besoin de cela? Alors que nous sommes engagés à justement donner ce qu'il y a de meilleur à présenter aux hommes qui ont tellement besoin de la grâce de Dieu et du Seigneur. Et pas de choses complètement virtuelles, complètement farfelues. Il faut s'élever contre ça. Donc nous voyons que si les choses sont... S'il manque des éléments. Alors, il faut faire attention parce que ce sont des divagations d'imagination et d'image que nous prenons, que les gens finissent par se convaincre pour des réalités et cela occasionne de grands ravages. Et puisque cette imagination se situe au-dedans de l'homme, alors elle devient folle, cette imagination. Et certains anciens l'ont appelée la folle du logis. Oui, à l'intérieur. C'est terrible. C'est terrible ce genre de choses. Alors un chrétien se veut être véritablement un homme équilibré. De jour, à l'état d'éveil, en pleine conscience, l'imagination travaille sans cesse. C'est Descartes, hein. Je pense, donc je suis. C'est lui, hein. Que je révise mes classiques. Mais n'allons pas croire que la nuit, rien ne se passe. L'univers du sommeil est peuplé au mieux de rêves heureux, au pire, de cauchemars. Et ça, on est passé par les uns par les autres. L'inconscient a pris le relais quand, finalement, le corps est au repos. Nous, physiquement, nous dormons, nous sommes au repos, mais c'est à l'intérieur que ça va bouger. L'âme reste active, le corps est inactif, l'âme est active. Les spécialistes du sommeil, parce que ils le disent, affirment que nous passons, alors vous allez peut-être être surpris, mais vous le savez déjà, environ 25 ans rien qu'à dormir sur une existence de 80 ans. Oui. C'est pour ça qu'on est toujours fatigué. Oh. 25 ans de sommeil, vous vous rendez compte? C'est pas mal, hein? Et donc, d'après toujours ces spécialistes, 5 à 7 ans à rêver. Ouais, c'est beaucoup, hein. Enfin, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, dis donc. Hein. Il y a des personnes très sensibles qui se souviennent ou qui croient se souvenir de tous les rêves et ensuite en tirent des pronostics. Alors, vous savez, le mot pronostic, on le trouve aussi dans la Bible. Quand il est question, tu n'iras pas vers ceux qui, etc., etc., ceux qui tirent des pronostics avec, hein, vous êtes au courant de ça, hein. On retrouve un mot qui a une connotation un petit peu ténébreuse, pour ne pas dire, voire même occulte. Parce qu'attention, hein, la relation C'est toujours vers une relation vers le haut. Il y a ce surnaturel divin et ce surnaturel diabolique, hein, satanique, parce qu'il est question de mensonges. Hein. On l'a lu tout à l'heure. Hein. Ils ne disent que des mensonges. Alors ils en tirent des pronostics pour diriger la vie, pour diriger leur vie. Alors moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Franchement, ça ne peut que m'attrister quand je vois un chrétien qui part en live. Mais le plus grave, curieusement, il se donne l'autorité pour diriger la vie des autres. Alors là, c'est une autre affaire. Combien de fois j'ai entendu des gens venir me voir ou me téléphoner en disant « Alain, je suis troublé, je ne sais plus du tout où j'en suis », sans me dire le nom de la personne qui était au bout du fil, parce que bon... voilà, quelqu'un m'a téléphoné, un frère, une sœur m'a téléphoné, il a eu une vision, il a eu un songe pour moi, il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Alors, moi je ne sais plus où j'en suis. Alors bon, on commence à calmer les jeux à ce moment-là. Hein. Puis quand je sais à peu près qui est la personne qui est l'émetteur, bon, on arrive dans certains cas, c'était exact. Mais dans beaucoup d'autres cas, je peux vous dire que ceux qui étaient les récepteurs de ce message ne savaient plus du tout où ils en étaient rendus. Hein. Confondus, perdus leur repère, complètement, alors, excusez-moi, mais complètement dans la panade, on peut dire. Hein. Alors ça, c'est dangereux dans une église. Je sais que ça s'est pratiqué, ça se pratique encore, mais en tous les cas, chacun va prendre ses responsabilités. Parce que quelquefois, en voulant faire du bien, on fait du mal. Ou alors, tout simplement, on se autoproclame prophète ou prophétesse, et on se dit, moi, Dieu m'a parlé, je vais quand même, il faut absolument que j'aille voir telle et telle personne. Mais vous prenez une responsabilité quand vous êtes comme ça. Parce que si c'est la pensée de Dieu, et encore, il y a des paramètres à tenir, c'est bien. Mais si c'est le contraire et que la personne se retrouve dans les décors, alors à ce moment-là, on doit rendre compte au Seigneur. Ça, faut faire attention. Faire attention. Parce qu'en voulant bien faire, et surtout quand on a des révélations, on le verra dans la deuxième partie, quand on a des révélations disant « Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a montré, pour toi, ceci, cela, ce qui va arriver », vous savez, quand le Seigneur parle, moi, quand le Seigneur me parle, parce que ça m'arrive de temps en temps, rarement, vous savez ce que je fais? Eh bien, je ne le dis pas. Voilà. À moins que Dieu me dise « Tu vas aller le voir, tu vas lui dire. » Mais tant que je n'ai pas ça, je ne dis rien. J'attends. Je retiens ce que j'ai reçu. Et bien souvent, on m'en a pris, parce que je me suis aperçu qu'il fallait que non seulement celui qui reçoit soit prêt, bon, en l'occurrence, on a entendu, mais celui qui devait être le récepteur soit aussi préparé. Parce que quand vous arrivez avec des choses où la personne n'est pas préparée, vous la mettez par terre. Et ça, on l'a vécu. Il y a des choses que nous avons sues et que j'ai toujours pas dites. Elles sont là en attente. Je ne dirai peut-être jamais. Mais il y a une chose que l'on peut faire, c'est de prier. De prier. Vous savez ce que ça veut dire, prier? Le Seigneur qui a révélé cela à un frère ou une sœur, alors à ce moment-là, il va se tenir devant Dieu en disant, « Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ce que tu m'as... » Mais le Seigneur nous demande, avant peut-être d'aller voir l'intéressé, de nous tenir devant lui, et puis finalement de dire, « Eh bien Seigneur, conduis-moi, dirige-moi, est-ce que je dois parler, est-ce que je dois me taire ?» Franchement, je vous le dirai, très souvent, et on ne se met pas en modèle, mais très souvent, nous on dit avec Myriam, quand on prie, on dit, « Seigneur, ce que je dois dire, je le dis, ce que je dois taire, je le tais. » Et c'est tout, ça ne va pas plus loin. Parce que si c'est pour se donner les airs de prophète, hein, ou de dire « moi, je suis plus spirituel que vous », alors là, vous passez à côté. Hein. Franchement, vous passez à côté. Ça ne marchera pas. Mais après, c'est une affaire avec vous et entre le Seigneur. Hein. Ce n'est certainement pas comme cela que la parole de Dieu nous demande d'organiser notre existence ou les choses. Et l'existence est de gérer la vie des autres. Permettez-moi de le dire encore, la foi n'est pas un rêve. La foi est une conviction du cœur, conviction morale, certitude de l'esprit, appuyée sur les promesses et la parole de Dieu, et ce n'est pas du rêve. Certes, il y a une espérance, certes, il y a une attente, mais nous regardons au Seigneur et au Seigneur lui-même, quand il veut, où il veut, comme il veut. Ce n'est pas du rêve. chercher à découvrir la volonté de Dieu, d'accord, mais on ne dira pas le contraire. Mais cette connaissance repose avant tout sur la révélation claire et objective de sa parole, et non, finalement, mon ressenti, ce que j'appelle tout à l'heure, ce que j'ai appelé tout à l'heure, de la subjectivité. Oh, je pense que ça serait bien pour toi. Ouais, ben moi je le pense. Mais qu'est-ce que le Seigneur pense? Et toi, qu'est-ce que t'en penses? La subjectivité des rêves, quand bien même les interprétations comme venant du ciel, intuition, sentiments, émotions sont capables de nous jouer de mauvais tours, ne rêvons pas, la parole de Dieu ne nous trompera et ne nous trompe jamais. Nous, oui, on peut se tromper. Et la parole de Dieu ne nous trompera pas. Le prophète Jérémie est sévère sur la question. Il est très rigoureux lorsqu'il dit « J'ai entendu ce que disent les prophètes. J'ai fait un rêve, j'ai fait un rêve. » Comme s'il y avait une précipitation, une excitation. Ha ! Vous vous rendez compte, je suis au-dessus des autres. J'ai fait un rêve, j'ai fait un rêve. Ils pensent faire oublier mon nom. Là, Dieu est en train de dévoiler finalement les intentions de ces pseudo-prophètes. C'est-à-dire, faire oublier mon nom, c'est faire oublier ma parole, dit Dieu. Par des songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Que le prophète qui a un songe raconte son songe et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille avec le froment? Moi, ce matin, avec la grâce de Dieu, et croyez bien, je ne me prends pas la tête, mais une chose que je veux faire et que le Seigneur me demande, c'est vous de rapporter fidèlement sa parole. Alors après le reste, ce que l'on peut entendre, mais c'est finalement ma vocation et le ministère pastoral, ou d'enseignant. Moi, après le reste, je dis. Alors, on ne mêle pas la paille avec le froment. Parce qu'il y a le froment noble, la fine fleur de farine, qui est la parole de Dieu, qui est ce que Dieu veut pour nous de meilleur, d'excellent, d'esquis, et puis alors, tout ce qu'il y a tout autour, qui est que, finalement, la paille. Alors ça, c'est un avertissement que Ésaïe nous donne à prendre au sérieux. Il est facile de proclamer à qui veut l'entendre, il y aura toujours des oreilles pour entendre, on aime bien les friandises, vous ne trouvez pas? Eh, les bonbons. Ben moi, il y a des bonbons spirituels, quelquefois, qui font marcher, quelquefois, le peuple de Dieu, les chrétiens. Donc, il y aura toujours des gens pour l'entendre. On peut toujours le proclamer à qui veut l'entendre, que Dieu nous parle par des songes. Encore faut-il que nos affirmations, si nous sommes ceux qui tenons ce genre de propos, soient en accord avec toute l'Écriture. Et je dis bien, toute l'Écriture. Parce que elle ne se désavoue pas, l'Écriture. Elle est une, l'Écriture sainte. Se servir de Dieu pour appuyer nos dires, en disant, voilà, j'ai fait un songe, mais la parole de Dieu, et on va avec chercher des versets et toutes sortes de choses. Vous avez connu ça, non? Personne ne me répond. Oui. Donc, se servir de Dieu pour appuyer nos dires, se donner de l'autorité ou un crédit de prophète auprès des autres, tout en méconnaissant les principes enseignés par la Bible, relève, excusez-moi, je suis obligé de le dire, excusez-moi parce que c'est le prophète Jérémie qui le dit, relève du mensonge. Et vous savez qui est derrière le mensonge? C'est le menteur, l'inspirateur du mensonge. Et ce que nous croyons venir de Dieu authentiquement, vient de l'autre, de l'ennemi. Je n'ai rien inventé. Et je ne veux absolument pas édulcorer la parole de Dieu ce matin. Mais quand même, c'est de l'illusion et du mensonge. La comparaison est pertinente. Combien, selon nous, alors vous êtes très fort en mathématiques, vous allez me répondre tout de suite spontanément. Combien, selon vous, faut-il de meules de paille pour produire un quintal de grains? Alors, c'est fonction de... Il y a pas mal de paramètres. Cherchez pas votre calculatrice. Parce que là, ça dépend de beaucoup de choses. Mais bon, c'est la question que je pose, tout simplement. Je vous demande pas de réponse. Aussi, Zacharie, le prophète d'ajouter les songes mentent, c'est le prophète qui dit ça, les songes mentent et consolent par la vanité. C'est encore la Bible, hein ? La parole infaillible de Dieu, moi je la crois infaillible dans son interprétation sainte, inspirée du Saint-Esprit, parole de Dieu, oui. On la reçoit comme telle, hein, naturellement. Ne sera jamais supplantée par une quelconque révélation, et c'est à nous de bien la connaître, cette parole de Dieu. Parce que le signe de la maturité d'un chrétien, même d'un pasteur, c'est pas d'avoir une connaissance livresque, et théologique, hein, c'est de la connaître. Mais de la connaître dans son cœur et dans une interprétation, non pas selon la lettre, mais selon l'esprit. Alors à ce moment-là, c'est à nous de bien la connaître et de la rapporter fidèlement, comme nous l'avons lu. Celui qui a des songes, eh bien, rapporte son songe. Que celui qui connaît bien la parole rapporte fidèlement la parole. Et c'est cette confrontation qui va permettre finalement aux victimes de s'échapper, aux prisonniers, aux captifs, ceux qui sont tourmentés dans leur conscience ou dans leur intérieur parce qu'on leur a dit des choses qui ne viennent pas du Seigneur. D'ailleurs, c'est facile. Hein. Quand c'est le Seigneur qui parle, il nous fait du bien. Quand c'est le diable qui parle sous des apparences de vérité, eh bien, il nous fait du mal. Hmm ? C'est vrai ou c'est pas vrai, ça ? Alors, quelquefois, on se dit, mais je comprends pas, Seigneur, je suis tellement mal. Ben, alors, il faut vérifier maintenant. Pourquoi vous êtes mal ? Qu'est-ce que vous avez mangé, spirituellement ? Quelle nourriture avons-nous pris ? Et quand on gratte un peu de tous les côtés avec toutes sortes d'enseignements, on va ici, on va là parce que ça démange d'entendre toutes sortes de choses agréables. Alors ça m'étonne pas que quelquefois, il faut soigner des maladies de peau, hein. C'est épidermique après, hein. Et on arrive, on a des chrétiens qui reviennent, ils sont en miettes. On se dit, mais Seigneur, mais dans quel état, qu'est-ce que l'on fait maintenant? Ah, c'est le SAMU, hein, en urgence, on peut pas faire autre chose, hein. Chacun sait par l'expérience du rêve qu'il y a finalement dans ses rêves de la fantaisie, des invraisemblances, de la romance, des mirages dorés et aussi de la terreur, toutes sortes de choses. Dans ma petite étude, vous voulez, je vais le partager, je ne vais pas être très long, mais dans ma petite étude, j'ai voulu faire une petite prolongation. L'imaginaire, je l'ai appelé l'imaginaire invraisemblable. On reste des hommes, hein. Parfois, ce qui revient assez souvent dans ce que les gens disent quand ils rêvent de tomber, de la chute, d'être poursuivi. Ça vous est jamais arrivé ? Un grand méchant qui vous court après. Faire quelque chose et ne pas y parvenir. On fait des efforts désespérés. Et c'est là où le rêve disparaît, à ce moment-là, on revient à la réalité. Ouais. Perdre un proche, ce qui ne sera pas. On rêve de voler, de planer, faire une idylle, rêver d'une idylle romanesque. Hein, oui. C'est voler, ça aussi. Être paralysé, tétanisé, on ne peut plus aller plus loin alors que le danger s'approche. Mourir ou être accidenté. Il y a quelque chose qui, quelquefois, a été souvent dit par les gens. J'ai rêvé que je perdais mes dents. Oui, ça vous est déjà... Hein ? C'est une réalité, hein. Et pourquoi les dents ? C'est curieux, ça, hein. Il y a quelques chiffres de statistiques qui nous montrent que 22% de gens rêvent d'amour, 22% de réussite, 23% d'angoisse, 34% de gens décidés, 40% de leur famille ou de leur conjoint, 21% de leur entourage professionnel avec tout ce qu'il y a autour. Alors vous avez remarqué, hein, ça fait plus que 100% ça. Non, mais à chaque fois c'est un pourcentage. Notre environnement. Alors écoutez bien, parce qu'on vit dans un autre monde. Hein. Jésus pourtant nous a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Alors écoutez, notre environnement, nos lectures, ce que nous entendons, ce que nous voyons, influence finalement notre psychisme, notre âme, et nous conduit soit au rêve ou au cauchemar. Hein. Avec cela, de ces, finalement, ces expériences que invraisemblables, donc... nous irions chercher, si nous partons sur cette base, nous irions chercher un guide sûr et une conduite absolue si nous vivons qu'avec notre âme et avec notre ressenti. Alors ça ne vient plus du Seigneur, ça vient de nous-mêmes, naturellement. c'est tout bonnement vouloir conduire une voiture avec un bandeau sur les yeux. Et un chrétien qui fonctionne de cette manière, c'est un chrétien qui est aveugle. Il ne voit plus clair, tout en pensant qu'il voit plus, il voit mieux que les autres. Puisqu'il va leur dire, j'ai vu pour vous. Ben, Jésus nous le dit, hein, dans l'évangile de Matthieu, il nous dit, mais comment un aveugle conduira-t-il un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans le même trou? Je vais finir bientôt cette première partie, on reprendra une autre fois, parce que c'est quand même quelque chose qui peut être important. Certains cherchent dans le rêve un refuge, déçus d'un réel et d'un quotidien médiocre. Alors, c'est facile, on s'évade, et on pense que là, on trouvera quelque chose d'autre. Une sorte d'échappatoire. Alors, il ne faut pas que le chrétien se donne et se prête à ce jeu-là, parce que nous vivons dans le réel. Nous avons le Seigneur, et nous avons tout pleinement en lui. Alors, les réalités, elles sont là, c'est vrai. Les médiocrités de la vie, de notre existence, peut-être, mais le Seigneur est là pour nous donner la joie, le bonheur, l'enthousiasme. Il est là pour nous donner autre chose. Et là, c'est notre moyen. Et comment irions-nous substituer toutes ces bonnes choses par des choses imaginaires et des choses folles même? Eh bien, moi, je dis que tout ça, ça vient aussi de l'ennemi. Pour nous faire oublier ce que Dieu nous donne, parce que nous l'avons. Et c'est à nous, c'est notre propriété ce qu'il nous donne, pour nous le voler, pour nous le ravir, et nous emmener sur des chemins, finalement, d'illusion. Et nous rendre encore plus malheureux que nous le sommes. Disons plus simplement que quand je suis préoccupé par un problème dans la journée, même inconsciemment, est-ce qu'il serait étonnant que mon esprit ait conservé, enregistré, emmagasiné mon trouble, et qu'alors mes rêves nocturnes ne soient que le prolongement de mon imagination diurne? Alors, vous faites des rêves? Eh bien, au lieu de dire « Dieu m'a parlé », vous dites tout simplement « Je suis fatigué ». Et si je suis fatigué, bien le Seigneur est capable de me renouveler dans mes fatigues et de me donner un sommeil paisible. Tu me donnes plus de repos que tous les biens qu'ils peuvent avoir. Mais on a tout dans le Seigneur. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Parce que là, à travers ce fonctionnement, on ne marche plus par la foi, on marche par la sensibilité et la sensitivité. Et là, on est en porte-à-faux avec le Seigneur. Mes frères et sœurs, il faut apprendre que nous ne marchons pas de cette manière. Pas par les émotions. Nous ne marchons pas avec ce que je ressens. Nous ne marchons pas avec des choses qui, là, eh bien, vont nous transporter. Non. Il y a autre chose. Nous marchons par la foi. Et puis la foi, quelquefois, eh bien, nous avons des déserts. Et dans le désert, on sent rien. Et pourtant, on continue à croire, on continue à marcher et on continue à bénir et adorer le Seigneur. Si nous voulons des réunions où il y a toujours de la sensibilité ou de la sensitivité, eh bien, quelquefois, moi, je me dis d'où ça vient. Alors, il y a des choses authentiques, hein. Il y a les présences du Saint-Esprit, mais quand on le recherche, et quand on va de droite et de gauche pour le rechercher, et que l'on fait là toutes sortes de démarches, pour toujours retrouver, mais le Seigneur est là même quand nous ne le sentons pas, on est d'accord? On est d'accord? Il est là, que je le sente ou je le sens pas. Moi, je m'appuie. Seigneur, tu m'as dit que tu étais tous les jours avec moi jusqu'à la fin du monde. Or, que je te sente ou que je ne te sente pas, que j'ai une révélation ou que j'en ai pas, moi, ta parole me suffit. Vous savez, on est en train de construire pour l'avenir, hein, frères et sœurs, parce que moi j'ai à cœur de vous dire tout ça. J'espère que vous l'entendrez après, hein, après moi. Parce que nous allons arriver dans un monde, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui va se passer. Alors on sera là ou on sera plus là, on sera peut-être parti vers le Seigneur, mais les vents vont souffler fort. Hein, et il va y avoir une pluie torrentielle, et je vous dis pas d'où elle viendra celle-là. Parce que l'objectif de l'adversaire, c'est de dégringoler et de ruiner l'Église dans les derniers temps, pour préparer même les chrétiens à accueillir et applaudir l'Antéchrist quand il va venir. Et ça, je vous le dis, parce que c'est beaucoup plus grave qu'on ne le pense. Parce que le but de l'ennemi, c'est pas de venir avec ses gros sabots en vous prétendant un panier rempli d'occultisme et de choses abominables. Il ne le fera pas. Il va venir en se servant de la parole. Il va vous dire, mais vous savez, Dieu a-t-il réellement dit? Et puis regarde un peu. Tu ressens des choses, tu rêves des choses, tu penses des choses. Ton imaginaire, mais regarde, mais c'est le Seigneur qui te parle. Attendez, hein. Faisons attention, hein. Dans le temps, le diable, il était face aux chrétiens des temps passés qui ont été persécutés avec le feu et le sang. Maintenant, comme disait M. Butler, le diable, il n'est plus en face de vous, il est sous la table. Il se cache. Alors c'est à nous d'avoir un bon équipement et que nos bagages soient remplis de connaissances de la parole de Dieu et de ce que Dieu veut nous dire. Il y a tant de choses qui nous trottent dans la tête le jour et qui galopent la nuit. Je termine. On va prier. On va demander au Seigneur de nous aider. On verra la suite. J'ai même pas encore fini la première partie, mais c'est pas grave. On y reviendra. Parce que je crois qu'il faut que l'Église soit équipée. Il faut qu'elle soit armée. Nous sommes des soldats. Et quand vous envoyez une troupe, commando d'élite ou de simples soldats au front, sans rien, eh bien, je peux vous dire qu'ils sont les premiers à tomber sur le terrain. Ouais. Ils vont mourir sur le champ de bataille. Et moi, je crois que le Seigneur nous prévient qu'il faut que, eh bien, le peuple de Dieu soit équipé pour les temps qui viennent. Le Seigneur nous dit, je viens bientôt. Levez vos têtes. Regardez, le figuier est en train de pousser des feuilles. Le Seigneur n'est pas loin, frères et sœurs. Mais il faut que vous soyez, eh bien, là, équipés. Et priez aussi, et je crois qu'il faut le demander, priez pour tous ceux qui étaient au milieu de nous, qui ne le sont plus, qui ont mis en oubli finalement peut-être leur vie passée, leur expérience, et qui vont être confrontés avec cela, et quand ils vont se réveiller, quand l'époux, quand on dira du haut du ciel, voici l'époux, vous savez ce qu'ils vont chercher? Eh bien, ils chercheront de l'huile à mettre dans leur lampe. Eh bien, c'est ce que nous sommes en train de faire, on est en train de remplir nos lampes d'huile, on va en avoir besoin parce que la nuit vient. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que une chose qui est certaine, c'est que ta parole, elle est ferme. Elle est solide. Elle est résistante. Et nous croyons que, en effet, tout ce que tu nous dis, ce n'est pas de la rêverie. Et tu n'es pas venu, Seigneur, faire en sorte que les enfants de Dieu ce soit de doux rêveurs, des hommes et des femmes qui sont prêts à tout accepter, tout vivre, parce que les vents d'un côté ou d'un autre les poussent. Non, Seigneur, nous voulons être vraiment attachés à Jésus et à sa parole et à la révélation d'esprit. Et pas n'importe quel esprit, le tien, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce et te remercier, Seigneur, parce que nous croyons que les temps dans lesquels nous venons, des temps psycho-émotionnels, des temps de ressenti. Alors, Seigneur, nous voulons vraiment, Père éternel, eh bien, te demander, oh, s'il te plaît, garde-nous, Seigneur, de tout ce qui va venir sur les habitants du monde. Et tu nous dis, Seigneur, que tu garderais tous ceux qui ont gardé la parole de la persévérance. Alors, merci, Seigneur, tu nous bénis les uns et les autres. Visite mes frères et mes sœurs. Nous croyons que nous pouvons grandir que quand il y a, eh bien, une nourriture qui nous nourrit. Nous pouvons grandir que lorsque nous ouvrons la parole de Dieu. Nous pouvons grandir et avoir la maturité, Seigneur, pour nous-mêmes et pour aussi les autres, que dans la mesure, Seigneur, nous nous tenons à tes pieds comme Marie, qui recevait ta parole. Et elle, en effet, fortifiait son âme. Merci Jésus. Bénis mes frères et mes sœurs. Donne-nous ta grâce. Et nous voulons te louer maintenant. Merci Jésus. Amen.